Vous écoutez, on lit pour vous.
Éloge de la beauté et de la générosité, un texte de Boukhar Diouf, paru le 6 juillet 2024 dans la presse. Je ne sais pas pourquoi, mais quand arrive l'été, je pense souvent à ces grands maîtres du monde des jardins et des plates-bandes qu'on ne voit plus. Je pense souvent à Jean-Claude Vigor, que je m'estime chanceux d'avoir côtoyé pendant plusieurs années. Jean-Claude est un géant dont l'érudition s'étend bien au-delà des jardins et des plates-bandes. Ce gourmand et généreux Normand à la génétique de Viking est une encyclopédie vivante dont la passion a ravivé l'amour des plantes du fils de cultivateur que je suis. J'ai aussi côtoyé et aimé Ronald le Duc, qui nous a malheureusement quittés en 2013. Avec sa voix singulière, Ronald mélangeait brillamment humour et horticulture et faisait partager son savoir avec une grande générosité. Comme Ronald et Jean-Claude, l'histoire des fleurs est aussi faite de partage et de générosité. C'est une des pages les plus importantes de l'évolution de la biosphère. Pour trouver les balbutiements de cette grande révolution du monde végétal, il faut remonter au Crétacé, moins 145 à moins 66 millions d'années. Pendant que les dinosaures régnaient encore en maître incontestable sur la Terre, un groupe particulier de guêpes délaissait progressivement les proies dont elles se nourrissaient pour devenir véganes. Ces guêpes deviendront les ancêtres des abeilles d'aujourd'hui. Pourquoi ce changement de régime alimentaire? Parce qu'au début du Crétacé, peut-être même avant, pensent d'autres scientifiques, sont apparues les premières plantes à fleurs. En échange de composés nutritifs, ces premiers collaborateurs animaliers coévolueront avec cette nouvelle flore pour favoriser sa fécondation. Depuis ce grand virage du Crétacé, les gains évolutifs de cette association sont indéniables pour les deux partenaires. De très minoritaires au Crétacé, les plantes à fleurs ont connu un extraordinaire succès évolutif. Si bien qu'aujourd'hui, elles représentent près de 90% de la flore terrestre, dont les espèces qui nous nourrissent. Les abeilles aussi ont profité de cette association pour connaître un spectaculaire succès évolutif. Les fleurs sont également les lieux de naissance des graines et des fruits qui sont les fondations d'une extraordinaire biodiversité animalière bien au-delà des pollinisateurs. Aujourd'hui, en plus de nous nourrir, les plantes à fleurs comblent nos désirs de beauté. Pouvez-vous imaginer la vie sans fleurs? Pourtant, si on plongeait un humain d'aujourd'hui au milieu des lycopodes géants, des prêles, des fougères et d'autres plantes à spores qui occupaient toute la place dans les forêts humides et marécageuses du Carbonifère, il aurait trouvé ces paysages sans fleurs bien ternes. Les plantes qui sont pollinisées par les animaux ont des fleurs plus belles, plus ostentatoires et plus colorées. La fleur est une affiche publicitaire déployée pour faire de l'œil aux abeilles, papillons, mouches, coléoptères, oiseaux, chauves-souris ou tout autre partenaire pollinisateur. Au cours de leur évolution, elles ont aménagé des chambres nuptiales parées de beaux draps pour accueillir les entremetteurs animaliers qui favorisent leur fécondation. En échange de nectar sucré et de pollen, ces animaux fouillent dans la fleur et emportent involontairement les grains de pollen indispensables à la fécondation des autres fleurs de la même espèce qu'ils vont visiter. Si nos spermatozoïdes ont un flagelle pour faciliter une partie de leur déplacement vers l'ovocyte, les grains de pollen imposent un covoiturage forcé aux pollinisateurs de passage. En plus du pollen et du sucre, certains insectes reçoivent du parfum en échange de leur contribution. Mon ami biologiste Charles-Antoine Darvaux, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, m'a parlé des espèces d'abeilles colorées pourvues d'une longue langue qui récoltent des parfums dans les fleurs d'orchidées. Pourquoi? Pour améliorer leurs chances de compter fleurettes pendant les parades nuptiales. N'est-ce pas poétique? Ces abeilles que Charles-Antoine traquait dans la jungle du Panama se parfument avec les huiles essentielles que des orchidées utilisent pour se protéger contre les insectes. Ce système de partage entre pollinisateurs et plantes nous a donné ce spectacle grandiose que sont les espaces fleuris dans nos campagnes et nos villes. Lorsque les émotions envahissent notre corps devant une telle explosion de coloris et de senteurs, il faut remercier la sélection naturelle d'avoir engendré ce mélange de coopération et de partage. Vous écoutez « Éloge de la beauté et de la générosité », un texte de Boucard Diouf, paru le 6 juillet 2024 dans La Presse. Les plantes, qui ne collaborent pas avec les animaux pour se reproduire, ont des fleurs moins colorées et moins parfumées. En cause, pour favoriser leur fécondation, elles n'investissent pas leur énergie dans ces leurres visuels et olfactifs qui font aussi les fleurs. Ici, la stratégie consiste plutôt à miser sur la libération d'une quantité astronomique de grains de pollen en espérant qu'une certaine fraction de ces cellules sexuelles mâles aura la chance de tomber à la bonne place. Quand une plante qui n'est pas auto-fertile mise sur le vent comme agent de fécondation de ses fleurs, le hasard devient le seul allié de son succès reproducteur. Pour décupler ses chances, il faut inonder l'air de pollen. L'herbe à poux, qui fait rager les citadins, est un exemple intéressant à citer dans ce domaine. Comme les céréales, cette plante mise sur le vent pour sa fécondation. Sa fleur est donc bien terne et elle produit d'énormes quantités de pollen. Quand arrive sa période de reproduction, partout où elle pousse, les personnes sensibles à son pollen sont agressées. Lorsque votre adolescent revient à la maison avec les yeux rouges, avant de l'accuser d'avoir fumé du cannabis, assurez-vous qu'il n'a pas sniffé du pollen. Ces cellules sexuelles qui entrent dans nos narines espéraient trouver un ovaire à féconder, mais se sont retrouvées inopportunément dans une morve à évacuer. Une triste destinée, disons. Je suis de ceux qui s'émerveillent devant les plates-bandes fleuries où s'activent les pollinisateurs. Pour favoriser un tel spectacle près de chez vous, il est important de choisir des espèces végétales plus généreuses avec leurs collaborateurs. Malheureusement, aujourd'hui, partout dans nos villes, poussent des variétés florales qui ont été sélectionnées par les humains pour le simple plaisir des yeux, mais qui sont de véritables déserts alimentaires pour les abeilles. Dans ces beautés presque stériles, il y a les fleurs doubles. Ces variétés ont été sélectionnées pour remplacer les étamines par des pétales supplémentaires. Lorsque le nombre de pétales surnuméraires finit par faire disparaître complètement les étamines, la vieille alliance entre les pollinisateurs et les plantes à fleurs est alors profanée par la main de l'homme. Ainsi, chez les rosiers vendus dans nos commerces, le nombre de pétales habituels est multiplié par 2, 3 ou 4. Ces fleurs bourrées de pétales sont très populaires chez les amateurs de bouquets. Malheureusement, elles sont si touffues que les insectes ne peuvent plus entrer dans leurs corolles. Elles ont encore le pouvoir d'attirer les pollinisateurs, mais n'ont plus rien d'intéressant à leur offrir. ce qui occasionne une énorme perte de temps pour les abeilles qui les visitent encore et encore, en espérant sans succès y trouver de la nourriture. Voilà pourquoi un mélange de fleurs incluant des espèces indigènes naturellement bienfaisantes avec les pollinisateurs est plus intelligent et durable que la monoculture de fleurs doubles. Si ces espèces qui se côtoient dans la plate-bande fleurissent à différents moments, c'est encore mieux. Ainsi professait le jardinier paresseux Larry Hodgson, qui nous a quittés en octobre 2022. Un autre grand homme passionné de plantes et d'horticulture qui nous a généreusement fait partager son savoir jusqu'à la fin. C'est aussi ça, le monde des fleurs et de la pollinisation. C'est une simple histoire de partage. Un modèle économique bien plus durable que la féroce compétition qui semble avoir inspiré le capitalisme. Ce système qui couronne les plus puissants et envoie les plus faibles dans les catacombes de l'histoire du vivant. C'était « Éloge de la beauté et de la générosité », un texte de Boucard Diouf, paru le 6 juillet 2024 dans La Presse.
La bureaucratie de la barre tendre, un texte de Philippe Mercure, paru le 24 mai 2024 dans La Presse. Connaissez-vous la différence entre une barre granola et une barre céréalière? Selon vous, une barre qui contient une garniture aux fruits est-elle nécessairement une barre aux fruits? Et comment distinguer une véritable barre aux noix d'une simple barre granola contenant des noix? Les réponses à ces questions épineuses et à bien d'autres que vous ne vous êtes jamais posées se trouve sur le site web de l'Agence du revenu du Canada, ARC, dans une section intitulée « GI-020, tablettes et barres 1 ». Le document fait pas moins de 11 pages. En tombant là-dessus, j'ai d'abord cru à une pièce de théâtre qui aurait été coécrite par l'écrivain austro-hongrois Franz Kafka et le maître de l'absurde Eugène Ionesco. Au-delà de l'anecdote, j'ai choisi de vous en parler parce que l'affaire me semble révélatrice de la bureaucratie qui peut gangrener une fonction publique quand on n'y prend pas garde. Sans compter qu'il peut y avoir des conséquences pour les familles qui peinent à joindre les deux bouts. C'est le symptôme d'une organisation qui ajoute et ajoute des couches jusqu'à atteindre un niveau de complexité spectaculaire, commente Marie-Soleil Tremblay, professeure à l'École nationale d'administration publique. Expliquons l'affaire pour en comprendre les implications. Si les très sérieux fonctionnaires de l'ARC s'intéressent aux barres tendres, c'est pour savoir si elles devraient être taxées dans les épiceries. Pour résumer, le gouvernement souhaite taxer la malbouffe, mais pas les denrées essentielles. Il veut aussi éviter que les épiceries ne livrent une concurrence déloyale aux cafés et casse-croûte en vendant les mêmes produits qu'eux, mais exempts de taxes. Ces objectifs sont parfaitement légitimes. Pour savoir quelles barres doivent être taxées, l'ARC a établi tout un système de classification de la barre tendre qui remplirait d'admiration le regretté botaniste suédois Carl von Linné, le premier à avoir répertorié et classé l'essentiel des espèces vivantes de son époque. Dans ce système fédéral, la tablette de chocolat et la barre de friandises occupent la même branche. On recense aussi la barre granola, la barre aux fruits, la barre aux noix, la barre céréalière, une famille à laquelle appartient aussi le muffin en barre, ainsi que les barres énergétiques et les barres protéinées. Vous y apprendrez que la barre granola est taxable. La barre céréalière, elle, ne l'est pas, à moins qu'elle soit vendue dans un emballage contenant moins de 6 unités. Comment les distinguer, direz-vous? Excellente question, d'autant plus que la barre granola et la barre céréalière, nous dit l'ARC, peuvent contenir les mêmes ingrédients. Le truc, si ces ingrédients ont été transformés au point où ils ont perdu leurs caractéristiques distinctes, il faut parler d'une barre céréalière plutôt que d'une barre granola, quoique la possibilité qu'on ait plutôt affaire à un muffin en barre ne soit pas à exclure. Pour la barre énergétique ou la barre protéinée, il faut d'abord déterminer si elle peut être considérée comme un substitut de repas ou un supplément nutritif. Si c'est le cas, elle n'est pas taxée, à moins, attention, qu'elle soit vendue dans une machine distributrice. Sachez aussi que ce n'est pas parce qu'une barre contient des noix qu'il s'agit d'une barre aux noix. Idem pour les fruits. J'arrête ici la torture. C'est effectivement difficile de s'y retrouver. La réglementation est complexe. Malgré tout, de façon générale, les détaillants finissent par savoir quoi taxer, notamment en raison du fait que les changements à la loi ont été peu fréquents au cours des dernières années, commente Samuel Bouchard-Villeneuve, directeur des affaires publiques de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Maxime Doré, co-directeur général de l'Union des consommateurs du Québec, est quant à lui convaincu que le consommateur n'a aucune chance de savoir si un paquet de barres tendres sera taxé lorsqu'il le lance dans son panier. C'est hyper complexe, dit-il, alambiqué au possible, absurde. Au minimum, si on veut conserver le statu quo, il faudrait une étiquette permettant au consommateur de savoir si c'est taxé ou non. M. Doré souligne aussi un effet pervers des règles. Le fait que les ménages au budget serré achètent souvent de plus petits formats qui sont davantage taxés. Certains fabricants ont aussi fait passer de 6 à 5 le nombre de barres dans leur boîte sans en baisser le prix, un phénomène de réduflation qui, en plus, expose les consommateurs aux taxes. Ça fait particulièrement mal dans le contexte d'inflation actuelle. Sylvain Thibault, fiscaliste et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, n'est pas étonné de voir des règles comme celles qui régissent la taxation des barres tendres. Un texte de loi est écrit, puis de nouveaux produits arrivent sur le marché. On essaie ensuite de les rentrer dans les règles prévues, explique-t-il. Chaque fois que quelqu'un trouve un truc pour contourner une loi, il faut s'ajuster, dit-il, d'où des règles de plus en plus complexes. C'est ça la fiscalité, lance Maître Thibault. L'expert convient néanmoins que le cas des barres tendres pourrait sans doute être simplifié. Une suggestion de mon cru. Ne pourrait-on pas simplement utiliser le taux de sucre de la barre? Marie-Soleil Tremblay, de l'ENAP, souligne qu'il est assez facile de pondre une règle qui permet d'atteindre 80% d'un objectif. Souvent, pour aller chercher les 20% supplémentaires, c'est là qu'il faut s'embarquer dans la complexité à n'en plus finir, dit-elle. Par principe, dit-elle, les organisations seront souvent tentées d'aller jusqu'au bout et de boucher tous les trous. L'experte incite plutôt à voir les coûts de cela en regard des risques de ne pas le faire. Dans ce cas, on peut parier que la société canadienne tiendrait le coup si un type de barre tendre en venait à échapper aux taxes. Chose certaine, on n'a pas besoin de se compliquer la vie pour des collations. C'était « La bureaucratie de la barre tendre », un texte de Philippe Mercure paru le 24 mai 2024 dans La Presse.
Né pour un petit pain. Un texte de José Blanchette paru le 14 juin 2024 dans Le Devoir. Nous venions de visiter un appartement en cours de réno, trou au plafond, délabré, promis à un riche avenir, 1 600 $ par mois, plus les frais, pour un 4,5. Dans ce quartier réputé gai, mon grand-père partageait un lit à ton âge, pile 20 ans, durant la crise de 1929, avec un compatriote gaspésien qui travaillait de nuit. Chacun son chiffre au plumard, et on ne lavait pas les draps souvent. Je t'ai dit sans conviction, y a pire, et une cour en ville, c'est précieux. Il y a eu des punaises cet hiver, maman. Elles peuvent dormir dans les murs pendant un an. Puis, une des deux chambres est vraiment petite. Il y a de la place pour un lit simple. Le proprio fournit les électros. Dans le temps de mon grand-père, c'était une glacière, une fournaise, puis une planche à laver. Chaque fois que je te parle de mon grand-père, Alban, ton regard se fait incrédule. Voir si le monde était pauvre de même. Pour toi, un washboard, c'est un instrument de musique. La nuit dernière, j'ai lu dans un rapport vraiment fréquent du gouvernement canadien que parmi les 35 perturbations probables dans les années à venir, nous ne pourrons plus vivre seuls. Ça va coûter trop cher. C'est déjà commencé. Le polyamour, tu y as pensé? Maman, tu devrais arrêter de lire des affaires comme ça la nuit. C'est pas bon pour toi. Ma page s'appelle Zeitgeist, l'air du temps. Pas « ça va ben aller ». Et parmi les autres perturbations anticipées durant cette décennie, on ne soutient plus les vieux, l'endettement des ménages atteint un point critique, la mobilité sociale descendante est la norme. C'est toi, ça. Les gens ne peuvent plus distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. La santé mentale est en crise. Je continue avec l'IA? Non, j'ai du lavage à faire. Je vais sortir mon washboard. Essaie de lire du Eckhart Tolle ou regarde Curb Your Enthusiasm ce soir. C'est drôle. Le siècle des anomalies. Je ne t'ai pas courbé l'enthousiasme davantage avec mon rapport Perturbation à l'horizon qui analyse un monde déjà en crise à la lueur de facteurs sociaux, politiques, économiques, environnementaux et leurs effets sur nos vies. Pourtant, c'est ce que j'ai lu de plus important cette année. Ça et le rapport de la CIA, publié tous les 4 ans. Le dernier, celui de 2021, semble conservateur aujourd'hui en regard du climat qui s'emballe, des tensions politiques aux États-Unis, en Europe, des guerres qui ont éclaté depuis sa publication, durant la COVID-19. J'ai toujours prétendu que tu avais mangé ton pain blanc en premier. Anyway, il n'y a jamais eu de pain blanc chez nous, Mom. En outre, le populisme tend à se développer après des crises économiques ou des changements dans la composition ethnique ou religieuse d'une société à la suite de migrations. Le monde en 2040, vu par la CIA. Cette semaine, je suis allé te porter un gros sac de pain brun aux graines de lin et noir, récupéré dans un café dépôt de pain de mon hood. Ils les jettent dans des sacs verts à la fermeture. C'est une employée qui les refile aux voisins. Me voici déchétarienne politique. En voilà une anomalie de ton siècle. 58% de gaspillage alimentaire au Canada. Je t'ai envoyé la vidéo du boulanger français qui jette du pain encore tiède à la fin de sa journée sur Instagram. Et celle de l'agriculteur qui doit laisser pourrir les poireaux dans son champ car ils sont trop gros. Colonne des pertes du capitalisme et de l'abondance. L'indécence n'a pas de colonne. Les perturbations, ce sont les parents de mon ex-coloc Maria qui crève de chaleur, sans eau courante au Mexique. Le jour zéro approche. L'Institut mexicain technologique de l'eau l'estime au 25 juillet 2024 à midi. On avance même le 26 juin pour la ville de Mexico. C'est le jour où l'on ne pourra plus fournir la population en eau, explique le site. Les anomalies, ce sont ces jeunes de ton âge qui perfectionnent leur swing au golf, un grand retour, mais semblent ignorer que le green ne se mange pas. L'anomalie, c'est l'adolescence jusqu'à 40 ans et cette croyance que le passé sera garant de l'avenir. Nous avons vécu comme des zombies qui se rendorment malgré l'alarme qui sonne et qui ont oublié que l'histoire n'est pas linéaire. Nouriel Roubini, économiste, auteur de Méga Menace. Le show de Boucan. Une autre anomalie historique, ce grand prix vrombissant et pétaradant à nos portes en juin 2024. Il réunit tout ce que les gauchistes détestent, de la prospérité, du pétrole, des hommes, de la concurrence, de la vitesse, de la réussite, du bruit, du plaisir, des gagnants. Les gens qui assistent au Grand Prix ou qui l'apprécient se feront bientôt, eux aussi, traiter de pétro-masculinistes. Signé Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, qui oublie de mentionner le bruit infernal, les hélicoptères stationnés en l'air, le culte du métal hurlant, la masculinité toxique, le capitalisme à son acmé, l'exploitation sexuelle des femmes et, j'oubliais, les dégâts environnementaux. Le tout financé à même nos taxes, comme le rappelait Laure Varidel samedi le 8 juin 2024 dans le Journal de Montréal. Célébrons tous la F1 en terre québécoise et ignorons les jalouses critiques. Éric Duhem sur X, 9 juin 2024. Jean-Marc Jancovici, mon second ingénieur français préféré, affirme que Marine Le Pen est l'enfant du carbone et que la dégradation du climat social est liée à l'incompréhension de ce qui est en train de nous arriver. Il fait référence à Marine, mais c'est bon pour Éric Duhem aussi. « Heureux les crus », disait ma grand-mère. Dans l'introduction présentant le rapport de la CIA, le correspondant du Monde à Washington, Pietro Smoller, résume. Il annonce des bouleversements en une génération comme aucune autre n'en a vécu jusqu'alors dans l'histoire de l'humanité. Du climat, de la connectivité, de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle. Il dessine des sociétés plus fragmentées, sous tension, confrontées à des menaces et des enjeux sans frontières. Une autre pandémie, par exemple, ou la résistance des superbactéries aux antibiotiques. Bref, l'anomalie, ce fut de penser que nous maîtrisions tout, la pédale de la F1 au plancher, et de nous croire au-dessus de la mêlée tout en saccageant la biodiversité pour manger du McDo. Dans une entrevue accordée au journal Le Monde l'année dernière, l'économiste Nouriel Roubini, auteur de Méga Menace, concluait que face aux 5 étapes du deuil, nous sommes coincés quelque part entre déni et colère. Après, il y a le marchandage, la dépression et l'acceptation. Je me suis tâté le Nostradamus intérieur et j'en suis déjà à l'étape tristesse-acceptation. Mais c'est toi qui as raison. Quand il n'y aura plus de pain, on ira piocher de la brioche dans les poubelles du progrès. C'était « Né pour un petit pain », un texte de José Blanchette paru le 14 juin 2024 dans Le Devoir.